Alors, Monitoring FR est au 6e Meetup Paris Monitoring, événement sponsorisé par Logmatic.io et Paris Coula. Je suis actuellement avec Mathias Herbert, cofondateur et CTO à Citizen Data. Mathias nous a fait une présentation intitulée Nature Favor Monitoring et est revenu sur l'évolution des pratiques du monitoring et aussi sur la tendance actuelle de l'instrumentation et de la collecte de séries de données temporelles. Mathias, est-ce que tu pourrais nous synthétiser ce qu'étaient les pratiques du monitoring et de la collecte des données à la papa, à l'ancienne, et leurs limites?
Alors oui, donc ce sur quoi je suis revenu pendant ma présentation, c'est un peu l'historique qui a conduit à ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire l'émergence de tout un tas de projets et d'une grande tendance de fond autour des séries temporelles, en revenant sur... quelque part, une tendance qui est née avec l'Internet et finalement des usages du réseau qui ont complètement changé, puisqu'on avait beaucoup plus d'utilisateurs qui nécessitaient des ressources et donc on avait besoin de regarder un peu comment ces équipements se comportaient et comment la ressource qui à l'époque était assez éparse, la bande passante, était consommée. Donc je suis revenu un peu sur l'historique depuis le milieu des années 90 avec l'arrière-grand-père de toutes les solutions de monitoring qui est MRTG, qui était un ensemble de scripts Perl qui générait des GIFs et qui est escalable jusqu'à une dizaine de routeurs. Donc autant dire des infrastructures conséquentes à l'époque. Pour revenir ensuite sur les évolutions autour de cette présentation de graphiques liées à la supervision d'équipements réseau, donc avec des outils comme RRDTool, Cacti, enfin toute finalement la lignée d'outils hérités de MRTG, mais qui ont un peu qui se sont teintés petit à petit de connotations web pour faire des interfaces un peu plus sympathiques et puis un peu plus que les gens ont un peu plus envie d'utiliser. Et donc ça c'était le premier pan finalement de mon rappel historique. Après je suis revenu un peu sur des outils plus orienté monitoring au sens large et pas simplement réseau, donc des choses comme supervision avec des outils comme Nagios sur lesquels on a dit beaucoup de bien et de mal. Donc ça incitera les gens à venir au meet-up plutôt que de, de n'avoir qu'un compte-rendu dans lequel on ne reviendra pas sur les polémiques qui ont pu avoir lieu. Pour ensuite un peu insister sur la tendance qui est née, puisqu'on avait des outils de supervision un peu plus évolués, la tendance qui est née d'instrumenter petit à petit, de plus en plus les applications pour qu'elles remontent elles-mêmes des choses et qu'on ne soit pas dans une logique de supervision en boîte noire de l'extérieur en essayant de détecter des signaux et des variations. Donc ça, c'était le deuxième pan de mon rappel historique. Et puis le troisième pan qui nous a conduit directement à la suite sur la partie série temporelle, c'est l'évolution d'univers parallèle, donc à la fois chez les grands de l'Internet, que ce soit Google en premier ou des gens comme Yahoo qui se sont assez rapidement retrouvés avec des infrastructures tellement conséquentes qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de mettre au point des outils de monitoring. Donc dans le cas de Google, c'était un outil comme Borgmon qui a été utilisé pendant très très longtemps. Et puis un autre parallèle avec le monde de la finance qui avait des séries temporelles depuis très longtemps, puisque une cotation d'une action sur un marché, ça n'est rien d'autre qu'une série temporelle, et donc ils se sont dotés d'outils pour manipuler ces séries temporelles. Donc on a l'évolution de ces deux univers en parallèle, avec une perméabilité entre ces deux univers et le reste des univers, on va dire, avec notamment des gens qui ont quitté Google et qui se sont retrouvés chez d'autres acteurs du monde de l'Internet qui commençaient à avoir des problématiques similaires en termes de taille d'infrastructure, mais qui se retrouvaient frustrés parce qu'il n'y avait pas les outils dont ils disposaient chez Google. Et donc on a eu émergence d'un certain nombre de projets, OpenTSDB est sans doute le plus emblématique d'entre eux, qui ont été faits par des gens qui ont travaillé chez Google pendant un temps, qui sont allés dans d'autres boîtes ensuite, et qui ont recréé finalement un peu de cet outillage qu'ils avaient chez Google. Et cette tendance-là a donné naissance aujourd'hui à tout un tas de projets, que ce soit OpenTSDB qui est le grand-père, on va dire, des outils de série temporelle, Graphite, KerosDB, InfluxDB plus récemment, et puis bien évidemment l'outil que nous aussi on propose et qui a fait l'objet de la deuxième partie de mon talk, qui est la plateforme Warp10, qui est une plateforme open source de gestion de séries spatio-temporelles.
On va y revenir un petit peu après sur Warp10. Qu'est-ce qui, selon toi, a amené la rupture technologique? Est-ce que c'est purement le nombre de métriques collectées, le nombre d'équipements à superviser. Est-ce que c'est plus le changement, c'est-à-dire le besoin de créer très rapidement beaucoup de machines ou de les éteindre rapidement? Est-ce que c'est ce changement-là ou est-ce que c'est vraiment en termes de chiffres, de données qui explosent?
Alors, je pense que la volumétrie est sans doute pour partie responsable de la tendance qu'on constate, mais je pense que l'émergence de tout un tas de systèmes distribués dans lesquels on a énormément d'instances similaires qui remplissent le même rôle, hein, que ce soit des clusters de bases de données, que ce soit N machines qui vont remplir le rôle de serveur web. L'émergence de ces systèmes distribués a nécessité qu'on ait une approche de leur supervision qui soit plus focalisée sur chacun des serveurs individuellement, mais qui considère le service rendu dans son ensemble. Et que donc, on soit dans une logique dans laquelle on dit ben, je vais collecter des données sur chacun de mes serveurs, mais l'interprétation que je vais en faire va être une interprétation globalisée sur ces serveurs qui sont très similaires. Donc ça, ça a été une tendance qui a été initiée par les produits comme OpenTSDB et qu'on a aujourd'hui dans tout un tas d'outils. Et si on prend Grafana par exemple sur la visualisation, on peut visualiser très simplement sur un même dashboard des machines qui remplissent un rôle très très similaire.
Alors, tu es le fondateur de Citizen Data, une société qui travaille dans ce sujet précis. Et notamment, vous éditez une plateforme open source nommée Warp10. Quelles sont les bases techniques de cette plateforme? Quels sont les outils fournis dans Warp10 et quelle est leur fonction? Alors, tu parlais de piliers.
Ouais, alors on a trois piliers que j'ai évoqués pendant ma présentation. Le premier, c'est une modélisation des données sous forme de séries spatio-temporelles. Donc on a fait un choix de modélisation dans lequel on fusionne une série temporelle, donc qui est une séquence de mesures correspondant à une quantité mesurée, qu'on va fusionner avec la position du capteur au moment de la mesure. Donc pourquoi? Parce que notre premier use case, c'était des sportifs et de la mesure de données physiologiques sur des sportifs. Donc les sportifs, normalement, s'ils ne sont pas sur le banc de touche, ils bougent. Et donc on avait le besoin de corréler le temps, l'espace et la grandeur mesurée ensemble. Donc le premier pilier de notre plateforme, c'est ça, c'est l'aspect modélisation sous forme de séries spatio-temporelles, qu'on appelle des geotime series en anglais. Le deuxième pilier, c'est l'aspect sécurité. Donc on a tout un tas de mécanismes à la fois de chiffrement et de contrôle d'accès pour spécifier qui a accès à quoi et comment on peut effectivement manipuler les données. Et le troisième pan de notre solution, c'est un langage de manipulation de séries spatio-temporelles, donc qui est vraiment dédié à cette typologie de données, qui s'appelle WarpScript, qui contient près de 700 fonctions aujourd'hui et qui permet de grandement simplifier des manipulations. Donc ça, c'est sur les trois piliers de la solution. Pour ce qui est du socle technique, on a plusieurs versions de notre plateforme. On a une première version qui est une version qu'on appelle standalone, donc qui va tourner d'infrastructures très modestes comme un Raspberry Pi jusqu'à un serveur un peu péchu. Tout est écrit en Java, donc ça tourne avec la JVM. Et sur cette version standalone, on a un back-end de stockage qui est basé sur LevelDB, qui est une bibliothèque mise à disposition par Google et qui va stocker des fichiers donc sur le file system local. Donc là, on a une plateforme qui va pouvoir accepter quelques centaines de milliers de mesures par seconde et qui va pouvoir être scalable jusqu'à quelques dizaines de millions de séries temporelles qu'on va gérer et quelques dizaines ou centaines de milliards de mesures, ce qui, dans les données qu'on a l'habitude de monitorer, est relativement faible, en fait. Ça semble beaucoup, mais en fait, c'est assez, assez raisonnable. Et puis, à l'autre bout de notre spectre de versions, on a une version qui tourne sur un cluster, qui est basée sur HBase, donc qui nécessite Hadoop, HBase, qui utilise Kafka pour la communication entre les différents composants, et qui, là, va pouvoir être scalable à des volumétries beaucoup plus importantes. Donc, on va parler de plusieurs millions de mesures par seconde qu'on est capable d'ingérer, et plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de milliards de mesures qu'on va pouvoir historiser.
Alors ça, c'est pour l'aspect stockage, collecte, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la partie présentation des données aux utilisateurs?
Oui, alors sur la partie visualisation post-analyse, on va dire, donc notre langage d'analyse WarpScript va permettre de faire des manipulations et une des suites logiques de la manipulation de la donnée, c'est sa visualisation. Donc là, on a à la fois réinventé la roue, mais aussi utilisé des roues existantes. Donc on a un plugin pour Grafana, par exemple. Donc dans le cadre du monitoring, on peut très bien connecter Grafana à la solution WarpScript. Et on a aussi conçu un certain nombre de composants web, donc de web components, qui sont des widgets dans lesquels on va pouvoir insérer du code WarpScript et très facilement construire des dashboards qui sont à la fois porteurs de courbes, mais éventuellement de tuiles indicatrices de valeurs particulières, de jauges, voire d'images qu'on va pouvoir générer avec notre solution, puisqu'on a intégré le langage de génération d'images qui s'appelle Processing directement dans le langage WarpScript.
Est-ce que tu pourrais aussi refaire un petit focus sur WarpScript, qui semble vraiment un outil très évolué? Tu as parlé de binding avec différents langages, on pouvait utiliser du WarpScript dans différents langages. Tu as aussi parlé d'analyse de données, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
Alors, la philosophie derrière WarpScript, c'est vraiment de fournir un certain nombre de briques de base qui vont pouvoir être mises en œuvre par des gens qui ont un besoin d'analyse de données correspondant à un métier particulier, que ce soit du monitoring IT, de l'industriel, etc. Donc on factorise dans WarpScript tout un tas de choses qui sont autrement compliquées à faire. Alors il y a un exemple que je cite assez souvent, mais qui semble trivial, mais qui nécessite quand même qu'on écrive du code, c'est le calcul d'une moyenne mobile. Aujourd'hui, si vous avez des données brutes dans une base de données relationnelle, eh ben, vous pouvez difficilement calculer une moyenne mobile en SQL, donc il va falloir que vous écriviez du code. Et écrire du code qui recalcule correctement une moyenne mobile et qui soit suffisamment souple, c'est du temps de développement. Bon, dans WarpScript, calculer une moyenne mobile, c'est une ligne, parce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment sur des séries temporelles. Donc l'analyse de données dans WarpScript, elle se traduit par tout un tas de fonctions qui sont à disposition de l'utilisateur. Alors ça va de choses très simples comme de la statistique descriptive, des mines, des max, des variances, des écarts types, à des choses beaucoup plus compliquées comme des tests statistiques, de la transformée de Fourier, de la transformée en ondelettes, qui vont permettre de traiter des séries temporelles comme des signaux et qui vont permettre de prendre des décisions là-dessus. Donc ça, c'est sur l'aspect propre à WarpScript. Ce qu'on a fait au sein de WarpScript, c'est qu'on l'a ouvert en plus à d'autres environnements. Donc on l'a ouvert d'une part à des syntaxes qui sont des syntaxes d'autres langages existants. Donc aujourd'hui, on supporte la syntaxe de Groovy, de Lua, de Python, de JavaScript, de Ruby et de R directement dans WarpScript, c'est déjà pas mal, mais on constate que les gens ont plutôt tendance quand même à rester avec WarpScript, parce que finalement quand ils repassent dans ces langages-là, il faut réinventer la roue, donc c'est pas forcément la chose la plus simple. Mais toujours est-il que ça leur permet de se focaliser sur des syntaxes qu'ils connaissent par ailleurs. Et puis l'autre intégration qu'on a faite, c'est de mettre la partie WarpScript accessible dans des environnements de traitement batch. Donc on supporte aujourd'hui trois environnements, Pig, Spark et Flink, qui sont des environnements qui permettent de traiter sur Hadoop des données massives de type série temporelle ou spatio-temporelle en utilisant la syntaxe et l'ensemble des bibliothèques et de fonctions qui sont disponibles dans WarpScript.
Le produit semble très complet. Alors, il est open source, on a oublié de le préciser, il est open source. Il semble très complet. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que moi qui suis responsable d'une société qui fait un peu d'informatique, avec 3-4 personnes, est-ce que je peux prendre en main l'outil ou c'est un poil compliqué et fou?
Alors, je pense que ça dépend de la complexité des choses que vous voulez faire. Faire des choses très simples, ça va être assez immédiat. Donc on a quelque chose qui est sur lequel on a une gratification quasi immédiate. Ouais. Quand vous voulez faire des choses plus compliquées, ce qu'on constate, c'est que c'est pas l'outil qui est compliqué, c'est le raisonnement sur des séries temporelles. Ouais. C'est-à-dire que dès lors que vous allez raisonner sur un ensemble de séries temporelles qui concernent plein de machines qui remplissent le même rôle, il y a un certain nombre de questions que les gens n'ont pas l'habitude de se poser, mais qu'il faut se poser. Par exemple, comment est-ce que je réaligne les timestamps pour que je puisse de façon cohérente prendre une photo seconde par seconde ou toutes les 15 secondes. Donc cet apprentissage de comment je vais penser en termes de séries temporelles, c'est plutôt ça qui prend du temps. Après, sur la syntaxe du langage, bien évidemment, il y a 692 fonctions aujourd'hui, donc ça peut être un peu intimidant. On a une doc en ligne sur le site www.warp10.io qui permet de prendre en main ces fonctions au travers notamment d'exemples interactifs. Donc on peut interagir avec le code qui est présenté et puis voir comment, en modifiant tel ou tel paramètre, ça impacte le résultat. Et puis après, on a un groupe de discussion sur Google, donc on a un groupe Google Groups dans lequel on espère que on va créer une communauté. Alors elle débute, hein. On a une trentaine de personnes aujourd'hui qui s'intéressent aux produits, mais on est passé open source en janvier, donc finalement c'est comme si c'était hier. Donc on espère qu'il y aura une émulation entre les gens, et comme WarpScript est un langage complet, on espère que petit à petit on aura des bibliothèques de code WarpScript qui verront le jour, et puis pourquoi pas des dépôts GitHub maintenus par des tiers dans lesquels ils disent, ben voilà, moi je gère un ensemble de bases MySQL en utilisant WarpScript, et voilà les scripts que j'utilise.
Ok, bah très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter en plus ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ?
Non, je pense qu'il faut, il faut avoir en tête que la partie série temporelle, c'est certes du monitoring, mais que ça peut aller bien au-delà, hein, puisque dans le monde de l'Internet des objets, ce qui est produit par la majorité des objets, ce sont aussi des séries temporelles. Mm-hmm. Et donc, on voit qu'on touche du doigt des choses qui sont beaucoup plus grosses que simplement le monitoring IT. Ça, c'est le premier point. Et en deuxième complément, je dirais que pour avoir un monitoring IT efficace, donc là on est vraiment dans le monitoring, il ne faut pas hésiter à le coupler avec des métriques qui sont des métriques métiers, des métriques business. Et avoir une plateforme de série temporelle, ça permet justement de mixer les deux. Et il est temps de décloisonner l'IT du business, parce que quelque part, les deux entités poursuivent le même objectif, c'est que les entreprises soient effectivement efficaces sur leur marché. Et donc il faut que vous mixiez les deux.
D'accord, très bien. Eh bien, merci Mathias Herberts. Bonne continuation à Citizen Data et à Warp10. Peut-être à bientôt pour un prochain Meetup Paris Monitoring pour nous présenter les évolutions de cette plateforme.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.